C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement.
Nous sommes au 27e salon Polutech qui s'est déroulé cette semaine pendant 4 jours à Lyon, dans le sud-est de la France. 100 000 m² d'innovation dans la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie. Un bon baromètre pour évaluer le dynamisme d'un secteur économique en plein essor qui va bouleverser nos modes de vie.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour, je suis Stéphanie Guettorante, directrice du salon Polutech. Polutech est un salon professionnel dédié à toutes les solutions de l'environnement pour les villes, pour les industries, mais également pour l'agriculture, l'hôpital et pour la préservation des océans.
C'est un angle nouveau, la préservation des océans cette année.
Oui, tout à fait. Alors, des solutions pour limiter les rejets dans la mer et les océans existent au niveau des éco-industries, que ce soit en termes de gestion des déchets, en termes d'assainissement, en termes également de mode de gestion des services urbains dans les collectivités du littoral, ou encore sur des activités justement où les industriels, notamment sur le sujet par exemple du plastique, ont des investissements en éco-conception pour permettre une biodégradabilité des plastiques et en limiter les impacts au niveau des milieux aquatiques.
Alors le salon est immense, hein. Il y a 100 000 m², 2200 exposants, 60 000 visiteurs, enfin, les chiffres sont assez vertigineux. C'est le 27e salon, vous allez avoir 40 ans en 2018, donc il y a eu beaucoup d'éditions. J'imagine qu'au fur et à mesure que les phénomènes environnementaux s'accélèrent, notamment les changements climatiques, la raréfaction des ressources naturelles, le nombre d'exposants et d'innovations et donc le salon grossit.
Effectivement, les enjeux liés à la raréfaction des ressources et l'impact climat ont bien entendu un impact sur les investissements des pays et des territoires au niveau des éco-industries. Aborder les sujets environnementaux en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand on est une collectivité locale, une grande, une moyenne, une petite ou un industriel, chacun a ses spécificités qui nécessitent des solutions adaptées à ces sujets, avec d'abord, effectivement, dans les années 80, des objectifs de respect des réglementations pour limiter l'impact des pollutions, de l'eau, de l'air, des déchets, des sols. Et aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont aussi des enjeux économiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un investissement sur des équipements matériels, services de l'environnement, ont un bénéfice économique pour les territoires, pour les industriels, puisque aujourd'hui, un déchet est une nouvelle matière, puisque traiter ces eaux, c'est également limiter des impacts très importants sur les sols et donc dans des pays où l'agriculture est importante, c'est un enjeu crucial. Mais également pour l'accès à l'eau potable, les problématiques d'approvisionnement en eau dans le monde sont colossales. Cette année, nous avons invité le Vietnam qui a cette thématique de manière très importante sur son territoire. Nous travaillons aussi largement avec l'Afrique. Nous avons un espace dédié aux problématiques de l'Afrique. Et on voit bien aussi que ces pays-là abordent les thématiques environnementales dans un objectif de développement économique de leur pays, dans des objectifs d'émergence.
Comme cette thématique prend de l'ampleur, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de créativité, par exemple, ou de capitaux mis sur ces enjeux-là ?
C'est un marché qui est extrêmement dynamique. Je vous disais qu'il y avait une diversité de tailles d'entreprises. C'est aussi, du coup, effectivement très riche et favorable à l'innovation. Nous avons, sur un salon comme Polutech, près de 200 innovations déclarées par les entreprises. Beaucoup de PME, d'ailleurs, hein, qui innovent sur ces marchés-là, dans tous les secteurs d'activité. Cette année, notamment, nous avons le numérique qui fait son apparition dans l'ensemble des secteurs. Avant, c'était quand même le sujet quand même très lié à l'énergie. Mais aujourd'hui, vous avez des innovations numériques dans les activités du déchet, de la qualité de l'air, dans la gestion de l'eau. Donc l'innovation, elle est partout sur le salon et elle fait effectivement aussi le dynamisme du marché de l'environnement.
Et Polutech, là, cette semaine, donc, c'est à Lyon, en France, mais c'est un salon que vous déclinez aussi à l'étranger. Quelles sont les différences ?
Nous avons créé un premier Polutech en Algérie il y a 10 ans, un Polutech au Maroc qui a été créé en 2009 et Polutech au Brésil qui aura sa seconde édition dans quelques mois. Quand nous avons fait le premier Polytech au Maroc, les entreprises exposantes étaient exclusivement, je dirais, françaises et européennes. Aujourd'hui, 50% sont marocaines. C'est-à-dire que ce sont des salons qui ont un ancrage national, mais également sur les sous-régions, puisque Polytech Maroc adresse aussi un visitorat africain. Au Brésil, vous avez l'Amérique du Sud qui est invitée à participer. Mais là où effectivement c'est intéressant, c'est que ce n'est pas juste pour nous la possibilité d'exporter des solutions européennes dans ces zones-là, mais aussi de travailler avec les territoires pour que des solutions et des compétences locales soient développées au bénéfice du pays, mais également pour faire de l'environnement une industrie dans chacun de ces pays qu'ils peuvent également développer et exporter à leur tour. Notre rôle est simplement effectivement de mettre en relation les différents acteurs. Nous avons une vision, je dirais, 360 degrés à la fois sur les solutions existantes, mais également sur les projets à travers nos réseaux internationaux qui nous permettent d'identifier tout au long de l'année les projets partout dans le monde. De toute taille, des grands, des moyens et des petits, qui sont tout autant importants dans les objectifs de préservation de la planète.
Pauline, là on enchaîne sur une solution d'accès à l'eau.
Oui, tout à fait. C'est Symbiose Technologies qui propose une solution pour créer de l'eau là où il n'y en a pas.
Mais ça va intéresser nos auditeurs. Bonjour.
Bonjour. Alors, je suis Philippe Roubalet, je dirige la société Symbiose Technologies qui est basée en Bourgogne.
Vous êtes venu ici à Polytech pour exposer votre innovation qui permet d'avoir accès à de l'eau dans des zones où il n'y en a pas et c'est basé sur la récolte de la rosée. Alors expliquez-nous.
C'est ça, c'est de l'humidité qui est dans l'air naturellement. Donc on a toujours une petite part d'humidité et cette humidité va se poser sur le sol au petit matin notamment quand la température est la plus basse. Donc notre principe va pouvoir optimiser cette récolte de rosée et former des gouttes qui vont former un peu plus de gouttes et qui vont former des verres d'eau et qui vont pouvoir remplir un seau, éventuellement un bidon ou une grosse citerne.
Vous avez créé une poudre que l'on peut étaler sous forme de peinture ou sous forme de toile sur les toits et ça récolte donc cette humidité.
Exactement, il faut qu'on ait quelque chose qui soit en pente. Simplement, la pente va permettre aux gouttes de pouvoir s'écouler puis de rassembler les autres gouttes. Donc notre principe existe en peinture, il existe en toile, ou il existe sous forme d'une fleur qu'on a appelée Daisy, qui est un ensemble de citernes et de pétales collecteurs de rosée. Ça va être adapté quand on est sur un site, une école par exemple, une école qui va être isolée, où il n'y a pas forcément d'eau parce que le réseau n'est pas tout le temps là. Repeindre simplement le toit de l'école va permettre de créer un collecteur de rosée avec le toit qui est déjà existant, simplement en le badigeonnant de peinture. C'est extrêmement simple hein, et ça ne consomme aucune énergie, c'est simplement la nature après qui va faire son travail.
Et ça produit quelle quantité d'eau par mètre carré par exemple ?
Alors si on est sur une zone qui est proche de la mer comme la zone de la Mauritanie, le Maroc, on va être dans les environs de 0,7-0,8 litres par nuit et par mètre carré. Donc pour 100 mètres carrés ça fait 80 litres. Quand on va être un peu plus loin de la côte, donc on aura un peu moins d'humidité dans l'air, on va diviser par 3, par 4 cette quantité d'eau. Donc si on est à peu près 500 km de la côte, on va descendre à peu près à 0,15, 0,20 litres par mètre carré et par nuit.
Et combien ça coûte, par exemple, de mettre de la peinture sur un toit ou la toile ?
Au prix au mètre carré, on peut considérer que c'est entre 20 et 30 euros du mètre carré.
Et ça dure des années ?
Le temps de vie de la peinture. C'est-à-dire probablement 20, 30 ans, ça va dépendre du vent par exemple, ça va dépendre de facteurs extérieurs.
Et vous avez créé cette entreprise il y a combien de temps ?
Donc j'ai créé la société en 2003 parce que j'ai vécu pendant 16 ans dans des pays où il y avait des problématiques d'eau, soit potable, soit pas d'eau du tout. Et je pense que ça m'a définitivement vacciné par rapport à ces problèmes. Et tous nos systèmes sont faits pour être appropriables par n'importe qui. Le laboratoire qui a mis au point ce procédé l'a testé dans une quinzaine de pays de par le monde. Donc il y a des installations en Inde, en Croatie, au Maroc, au Chili, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Donc on sait que ça marche. Aujourd'hui, on sait identifier les zones où on a des bons rendements. Ça, c'est fait de façon très scientifique et très précise. Et au niveau de la société Symbiose, on travaille sur l'Afrique de l'Ouest en général, en partant du Maroc jusqu'au Cameroun.
Alors vous garantissez que cette eau est potable ?
Alors cette eau est potable. Tiens, on a de l'eau de rosée là, si vous voulez, on va ouvrir la bouteille.
Ah oui, vous en avez en bouteille, vous en avez apporté. Alors ça, c'est de l'eau de rosée d'où, par exemple, vous savez ?
Ça, c'est de la rosée de Montceau-les-Mines, ça, de Bourgogne.
D'accord. Et vous l'avez analysée, il n'y a pas de problème.
Peut-être pas celle-là, mais...
pas celle-là, donc vous m'avez empoisonné, en fait.
Ah ben, attendez, je vais faire pareil, comme ça, on va être tranquille.
Donc si vous avez bu, vous aussi, tout va bien. Non, mais plus sérieusement, vous avez fait des analyses dans des milieux même urbains et vous êtes rendu compte que l'eau n'était pas polluée.
Ben, on s'est aperçu que l'eau de rosée était bien plus potable que l'eau de pluie. Et donc, il y a eu des analyses qui ont été faites un peu dans tous les pays du monde où ça a pu être produit. Et on s'est dit, on va essayer dans une zone très polluée. On a essayé au centre-ville de Genève, à un moment où il y avait des taux de pollution qui étaient très importants. Et même au centre-ville de Genève, on avait de l'eau qui était potable. Alors, bien sûr, à condition que le support il soit propre, bien sûr. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Formidable cette eau que l'on peut donc récupérer à partir de la rosée. Et maintenant, autre problématique, les toilettes. Et là aussi, il y a plein d'innovations. Pauline, on va en voir une.
Oui, alors nous allons voir le Trône qui propose des toilettes sèches 100% autonomes.
Très bien. Alors eux, ils sont juste à côté là.
Et voilà, ils sont juste là.
Bonjour.
Bonjour, je suis Étienne Favier. Je suis le co-gérant de la société Le Trône qui développe une cabine de toilettes publiques autonomes qui s'appelle Fitoilette.
Alors quel est le principe de ces Fitoilettes ?
Alors le principe de cette Fitoilette, c'est une cabine donc, qui est, comme je le disais tout à l'heure, entièrement autonome de tous les réseaux. Donc elle est autonome du réseau d'égout, du réseau d'électricité, du réseau d'eau potable.
Comment vous faites ça ?
On fait ça par un panneau photovoltaïque pour capter l'énergie solaire, donc l'énergie solaire et l'électricité. Donc. Un système d'assainissement intégré dans la cabine avec une partie phytoépuration et une partie lombricompostage.
Donc c'est-à-dire que d'un côté, les plantes s'occupent des liquides et les vers de terre s'occupent des solides.
Tout à fait, exactement. Voilà, en fait, à la base, on scinde les liquides et les solides, ce qui nous permet donc de dissocier d'une partie pour aller dans le lombricomposteur et une autre partie qui va directement dans le système de phytoépuration. Et ensuite, pour l'eau potable, tout simplement un captage d'eau de pluie en toiture.
Et donc, au bout du compte, qu'est-ce que vous faites des liquides et du compost que vous récupérez ?
Alors, les liquides sont retraités directement dans la cabine, par un système donc, de plantes qui sont en façade et en toiture. Et donc, ils n'ont plus aucun rejet polluant dans le sol. Pour les matières solides, au bout de 2 à 3 ans, notre cuve peut être vidangée. Et donc, un compost peut être utilisé à l'heure actuelle plutôt pour de l'horticole.
Donc il y a très peu de maintenance, très peu d'entretien finalement ?
Exactement. On estime à l'heure actuelle une maintenance tous les 3 ans. Pour vider le composteur, simplement. Et un petit focardage à prévoir une fois par an. Donc un focardage, c'est la taille des plantes qui sont en façade et en toiture.
Vous visez quel marché ?
On vise donc un marché, elle, pour l'heure actuelle, national. Donc essentiellement, on base notre activité sur les communautés de communes ou communes. Et ensuite, on essaierait de tendre vers l'européen.
Parce que le coût, pour l'instant, ne permet pas de viser les pays en développement. Ça coûte combien ?
Donc on a plusieurs gammes de produits, de solutions, et ça va de l'ordre de 30 000 euros à 48 000 euros.
Mais parce qu'il y a beaucoup de technologies, si vous enleviez un peu de technologie et qu'on mettait un peu plus d'humains, les coûts baisseraient ?
Tout à fait. C'est la phase 2 de notre développement, c'est pouvoir justement amener notre solution dans des pays qui ont un réel besoin de systèmes d'assainissement de par le fait d'un gros manque de sanitaires et de tout ce qui va avec.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Oh, Julie, rabbit, I saw my wabba. Oh, Julie, rabbit, I saw my wabba.
Salon Polytech, c'est l'énergie. Il y a beaucoup, beaucoup de solutions d'accès à l'énergie.
Oui, tout à fait. L'énergie sur Polytech, c'est le troisième secteur représenté. Et là, nous allons voir Mini Green Power qui propose en fait de transformer les biomasses en production d'énergie.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Rodolphe Pignat, je suis business developer chez Mini Green Power, une start-up qui est basée à Hyères, dans le Var. Donc, on a été créé en 2014. Sur le constat que de nombreuses centrales biomasse n'atteignaient pas leurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre parce qu'elles s'approvisionnent avec une biomasse venant de trop loin. Ils ont besoin d'une biomasse qui est si qualitative qu'ils sont obligés de faire venir par exemple par bateau en venant du Canada ou des États-Unis. Donc nous, à partir de ce constat, on a breveté et développé un procédé innovant qui permet de valoriser des biomasses de mauvaise qualité, donc des sous-produits de l'industrie agroalimentaire, des fruits à coque, des fruits à noyaux, des refus de compost, des biomasses qui ne sont jusqu'à maintenant pas assez valorisées et qui, via notre solution, permettent de récupérer soit de l'électricité, soit de la chaleur. Donc on va venir créer de l'énergie verte pour substituer aux ressources fossiles.
Et à partir de ça, vous obtenez de l'électricité, quelle quantité ?
Alors on a différentes gammes de puissance. On produit entre 50 et 300 kW électriques, ce qui correspond à la consommation de 50 à 200 logements environ en France. Ça correspond à une quantité de biomasse de 1000 à 8000 tonnes de biomasse.
Donc ça s'adresse plutôt aux industriels, de l'agroalimentaire par exemple ?
Effectivement, en premier lieu, on s'adresse aux industriels qui ont ce gisement biomasse qui, pour le moment, est un coût pour eux. Et on leur permet de le transformer en un revenu, mais également aux collectivités qui ont beaucoup de déchets verts. Dans un premier temps, on se développe en France au niveau de la production de chaleur. On vise également l'Italie pour la production d'électricité, puisqu'il y a un tarif de rachat qui est très intéressant en Italie. On a prévu également un développement en Afrique. On a déjà une première filiale à Madagascar, puisqu'en Afrique, il y a des gisements de biomasse qui sont très importants. Donc voilà, on commence par la France et l'Italie, et on visera ensuite l'Afrique.
Vous êtes business developer, c'est comme ça que vous êtes présenté. Vous êtes jeune, donc vous avez décidé de vous investir dans cette énergie décarbonée. Pour vous, c'est vraiment important ?
Pleinement. Quand j'ai fait le choix de l'entreprise à choisir, j'ai vraiment visé une entreprise qui était pleinement investie dans la transition énergétique. Et c'était pour moi vraiment le cœur de ma décision.
Pourquoi ?
Pour moi, il y a vraiment des enjeux au niveau de la transition énergétique. J'ai une sensibilité au niveau du changement climatique. Je pense qu'il faut vraiment agir maintenant. Et si nous, on ne le fait pas, on va le regretter.
Merci.
De rien.
Alors, il y a beaucoup d'innovations, on le disait, dans le domaine de l'énergie, Pauline, et il y a une innovation qui est assez intéressante, qui consiste à utiliser les surfaces de la route.
Oui, tout à fait. La route, beaucoup de surfaces, donc beaucoup de possibilités. Et là, c'est Colas qui utilise la route et le soleil pour produire de l'énergie.
Alors, c'est une innovation que j'avais vue dans la presse il y a quelques mois. Ça m'avait beaucoup intriguée, donc on va aller leur demander comment ça marche, surtout que là, ils sont en phase test dans le sud de la France. Bonjour.
Bonjour, Fabrice Bonifay, je suis directeur développement durable du groupe Bouygues.
Alors, le groupe Bouygues est venu pour la première fois au niveau groupe à Polytech cette année. Alors, vous présentez une innovation d'une de vos filiales, Colas, qui s'appelle, alors en français, on dit la route solaire. Comment vous dites-vous ?
Ce concept de route solaire a un nom commercial qui s'appelle Wattway. On l'a présenté pour la première fois lors de la COP21 il y a près d'un an à Paris. Et ce concept de route solaire, c'est une vraie révolution dans le domaine de la route. Une route qui produit de l'énergie à base d'énergie solaire. Donc c'est des cellules photovoltaïques qui sont collées en fait à la route et qui agissent comme une centrale solaire au sol.
Alors aujourd'hui, est-ce que c'est déjà expérimenté quelque part ?
Oui, c'est expérimenté dans plusieurs villes en France, de manière à pouvoir continuer de travailler sur une industrialisation qui rendra le concept parfaitement compétitif.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est encore un peu cher, mais pour qu'on comprenne bien le concept, vous produisez quelle quantité d'énergie avec, je ne sais pas comment vous raisonnez, en kilomètres ?
On dit qu'un kilomètre de route solaire, c'est l'équivalent d'une consommation d'électricité de 5000 personnes. J'ai bien dit d'électricité, hein, ça ne comprend pas l'eau chaude sanitaire ou le chauffage, mais ça permet de bien comprendre les ordres de grandeur de ce que produit en fait une route solaire. Le gros avantage de la route solaire par rapport à une centrale solaire au sol, c'est qu'il n'y a pas d'emprise foncière en dehors de la route. Hein. Ça peut, dans certains cas, rendre des services intéressants à des collectivités locales qui peuvent, en même temps que d'avoir la route, qui est indispensable pour le déplacement des gens, avoir une centrale solaire associée. Donc c'est une offre combinée qui nous paraît tout à fait originale.
Que vous destinez à quel marché aujourd'hui ?
Partout. Alors bien entendu, les pays où l'ensoleillement est plus important que d'autres, les rendements sont meilleurs. Donc c'est probablement les pays du Sud ou les endroits où il y a beaucoup plus de soleil qui seront visés. Mais maintenant, on sait que des panneaux photovoltaïques, comme ceux qui sont utilisés pour la route solaire, sont aussi sensibles à la lumière. Et donc ça peut fonctionner partout dans le monde, en fait.
Merci.
Merci.
Et la question que l'on se pose quand on se promène dans les couloirs de ce salon Polytech, c'est est-ce que toutes ces innovations finalement vont suffire à nous sortir d'affaires avec les défis que sont les changements climatiques, les pollutions, la raréfaction des ressources naturelles ? Alors on croise beaucoup de personnes dans ces couloirs. Bonjour François-Michel Lambert.
Bonjour RFI, content d'être à l'antenne.
Je vais vous laisser vous présenter.
François-Michel Lambert, donc député des Bouches-du-Rhône. Président fondateur de l'Institut de l'économie circulaire, qui est la structure qui porte le sujet de l'économie circulaire depuis plus de 3 ans et demi en France.
Alors l'économie circulaire, c'est justement une nouvelle économie qui permet d'économiser des ressources, d'être plus en accord, on va dire, avec les contraintes environnementales. Quand vous vous promenez dans les couloirs ici de ce salon Polytech, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces innovations vont dans la bonne direction ?
L'économie circulaire telle que nous la prônons, c'est tout à la fois préserver les ressources, mais aussi créer de l'efficience d'usage sur les ressources, c'est-à-dire avoir plus de services communs à ressources équivalentes, voire avec moins de ressources. Et donc il y a le mot usage qui est clé. Et donc ici à Polytech, il y a vraiment une révolution économie circulaire. Elle est très technologique et elle est indispensable. Mais il ne faudra pas oublier qu'elle se fera toujours, cette révolution, quelque révolution que ce soit d'ailleurs, avec les hommes. Et c'est la dimension importante sur laquelle l'Institut pousse en termes d'influence pour que cette économie circulaire elle soit appropriée par les citoyens et donc soit une transformation en profondeur de notre modèle, qui est un modèle gaspilleur et qu'on rentre dans un modèle beaucoup plus résilient. Dit autrement, attention de ne pas se retrouver piégé par une innovation que l'on trouverait géniale aujourd'hui mais qui nous bloquerait pour 20 ans pour cause d'investissement et qui finalement ne donnerait pas le plus de valeur d'usage, le plus d'efficience, le plus de productivité de la ressource. Nous l'avons vu avec la mise en œuvre trop importante d'incinérateurs qui ont été des pompes aspirantes à de la matière qui peut être valorisée à autre chose que de l'énergie. Brûler aujourd'hui du plastique, du papier, du carton est une hérésie. Ne prenons pas une technologie aussi qui déresponsabilise le citoyen. Je suis très attaché à ceci. Si on explique aux citoyens « ne change rien à ton comportement, derrière le miracle s'effectuera », bien, on n'aura pas fait grand-chose.
Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ce qu'il y a ici, par exemple, et les changements qui sont nécessaires au niveau de la vie de chacun ?
La place du politique est plus que jamais primordiale. Au moment où on dénigre la place des élus et des politiques, c'est tout le contraire. La transformation ne peut se faire que s'il y a des collectivités qui peuvent être très territoriales, mais aussi nationales, voire continentales, où ce sont des grandes lignes qui sont données et c'est en fonction des innovations, de la capacité du pays à les intégrer, que tout ceci doit se mettre en place. Donc, qui porte ces éléments, j'allais dire sociétaux ? Ce sont les femmes et les hommes politiques. Donc ils doivent retrouver une place, ils doivent prendre ceci, bien au-delà d'un discours technologique, mais plutôt d'un discours intégratif au sein de leur propre politique globale. L'économie circulaire, elle est transversale. Et au-delà des politiques, il y a les grandes structures, que ce soit les grandes entreprises qui ont une part de responsabilité, mais pas seules, en coopération avec les acteurs de territoire, avec les élus. Il y a les ONG aussi. En vérité, l'économie circulaire, c'est la capacité à rassembler tout le monde autour d'un projet de transformation de la société où chacun y gagnera. Celui qui veut avancer seul, le politique qui s'imposera sans avoir travaillé avec les structures locales, l'entreprise qui arrivera avec sa technologie, l'ONG qui stigmatisera, eh bien, à chaque fois, elle échouera. Alors que dans une approche globale, c'est au contraire extrêmement accélérateur.
Ce sont les lois du marché qui feront le tri entre toutes ces innovations. Et rappelez-vous, chacun peut faire sa part. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci à Pauline Turpot de nous avoir guidés dans cet immense dédale de stands. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.
En sol majeur.